Salut, c'est Koss.
Salut, c'est Alan.
Et bienvenue dans ce nouveau podcast de la semaine de Série Hall. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, chers auditeurs, on va parler des upfront. Alors, qu'est-ce que c'est les upfront, Alan?
Un upfront, c'est les annonces des nouvelles séries qui vont débarquer en 2000, ben, à la rentrée en septembre pour les chaînes du network, à savoir ABC, NBC, la Fox, CBS et CW.
Ouais, toutes les chaînes qui sont en fait en syndication, c'est-à-dire que les chaînes principales qui distribuent du contenu pour les chaînes locales. Donc ce sont ces 6 chaînes qui annoncent fin mai, la presse, leur nouvelle grille de programme. Donc c'est une tradition qui date depuis très longtemps, qui a jamais été remise en cause, sauf que depuis quelques années, comme la diversification de séries s'est démultipliée sur le net, sur tablette, voilà, sur plein de supports différents, et que la rentrée c'est septembre ne fait plus office de sacré graal comme avant. C'est-à-dire que maintenant, on a des séries d'été, comme Teen Wolf par exemple, on a une seconde rentrée en janvier, voilà, c'est beaucoup plus fragmenté qu'avant. Du coup, les upfront ont perdu un peu leur caractère sacré. Même si cette année, quand on commence pas le voir, il y a encore plein de nouveautés qui vont être lancées, j'ai quand même le sentiment, je sais pas ce que t'en penses Alan, que les networks comptent quand même vachement moins sur les upfront qu'avant.
Oh, bah oui, c'est évident, de toute façon, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment de saison en termes de séries télé. Enfin, on l'a remarqué surtout l'année dernière où il n'y avait pas eu beaucoup de très bonnes nouveautés en septembre, et les vraies bonnes choses étaient apparues en cours d'année, style Hannibal, Rectify et compagnie.
Ouais,
et puis surtout maintenant, les séries de l'été, avant on balançait limite des séries un peu bouche-trou, là maintenant on a affaire à des vraies séries. Enfin, alors là, t'as cité Teen Wolf, moi c'est l'exemple de merde. Hein. non, mais par exemple, t'as Orange is the New Black là qui va commencer dans pas longtemps. Enfin,
Oui, et puis même en termes HBO par exemple a lancé Louis il y a quelques semaines, c'est quasiment terminé. Voilà, il y a vraiment, le septembre a vraiment perdu son caractère sacré. Et en plus, pour ce qui est strictement des networks, je trouve, comme tu le dis, que janvier fournit des séries de plus en plus intéressantes. Souvent septembre, ils évacuent, c'est souvent les grosses séries qui ne prennent pas trop de risques et pas trop de, ils se mettent pas trop en danger, alors que les séries plus intéressantes, plus risquées mais plus intéressantes, sont souvent en janvier, je trouve. En tout cas, cette année, les upfront ont réservé quelques surprises que nous allons voir tout de suite. La première surprise, je suis pas sûr que ça soit vraiment une surprise en fait, c'est l'annulation de Community. NBC, au vu des audiences catastrophiques de la saison 5 de Community, a décidé d'annuler la série et a renvoyé Dan Harmon dans ses pénates. NBC, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, avait viré Dan Harmon à la fin de la saison 3. Ils avaient produit une saison 4 avec deux autres showrunners, qui a été une catastrophe assez absolue. Ils ont rappelé Dan Harmon en catastrophe pour boucler la saison 5, pour faire la saison 5. Saison 5 qui a été de bonne qualité, même s'il y avait pas mal de défauts. Et alors que la tagline de la série était 6 seasons and a movie, NBC a annulé Community au bout de sa 5e saison. Donc on n'aura peut-être pas de saison 6. Pour l'instant, Dan Harmon a pas dit grand-chose. Il a fait un post sur son Tumblr et a expliqué qu'il était, voilà, il était content d'avoir bossé sur la série et content d'être revenu pour boucler en fait la boucle, sachant qu'il faut savoir que Dan Harmon est en train de bosser sur une autre série qu'on regarde tous les deux, Rick and Morty, que j'apprécie beaucoup et que Alan, je pense que tu vas bien aimer. Je pense qu'il a un peu passé à autre chose, si tu veux. Il y a des rumeurs comme quoi Community serait peut-être reprise par Hulu. Hulu qui est une chaîne de vidéos à la demande sur internet. Mais sauf que si vraiment ils font ça, ça sera vraiment, à mon avis, une saison extrêmement réduite avec beaucoup moins de moyens. Donc je sais pas, il y a des négociations qui sont en train d'être faites entre Sony, qui donc possède la série, et des partenaires potentiels. Je continue à y croire parce que la série a quand même vécu des hauts et des bas assez exceptionnels. J'aurais jamais cru, par exemple, que Dan Harmon reviendra aux commandes un jour et il est revenu. Je pense que Community, c'est vraiment typiquement le genre de show où vraiment tout est possible, quoi. Donc pourquoi pas. T'en penses quoi, toi, cette annulation-là?
Moi, je trouve déjà que c'est beau que la série ait eu 5 saisons.
Ouais. Mais ça fait du miracle.
Bah oui, voilà. Alors, je comprends les fans qui sont pas contents, hein, c'est normal. Hein, mais après, je crois que la saison 5 se termine bien. Enfin, ça peut constituer une fin, non?
Tu veux que je te spoil?
Non, pas forcément, tu dis juste ou non. Enfin, est-ce que pour toi ça constitue une bonne fin? Enfin, est-ce que ça c'est une fin de série?
Ça fait fin de série, mais alors, le problème, c'est qu'Abed dit quelque chose, dit un regard face caméra. C'est la première fois qu'il regarde face à la caméra. Et il a une phrase, il dit, en gros, si on vient pas l'année prochaine, ça veut dire que la Terre aura été détruite. Ce qui peut être interprété comme une fin ouverte, en fait. Mais le dernier épisode fait office de fin, oui, en partie. Ce qui me gêne un peu, le problème avec Community, c'est que je vais être gentil, les 5-6 derniers épisodes, c'est en gros la moitié de la saison 5, est vraiment en dessous. Il y a un démarrage exceptionnel de la saison 5, les 3-4 premiers sont géniaux. Après, ça s'essouffle, quoi. Un peu comme s'il n'avait pas trop, plus trop d'idées, quoi. Donc, du coup, c'est un peu triste, ça finit comme ça. Enfin bon, on verra bien. On va continuer sur une note tout aussi triste, c'est la non-commande par CBS de la série préférée d'Alan, qui est How I Met Your Dad. Alors Alan, qu'est-ce que t'en penses de cette petite surprise?
Oh bah oui, quelle surprise. Bon, ils ont dû se rendre compte que ça allait pas marcher. Enfin, c'est une bonne décision, je pense. Enfin, vu que ça partait quand même assez mal. Non, bah non, c'est bien. Un autre à ajouter.
Ok. Moi, je suis très surpris de ce choix, parce que How I Met Your Mother a quand même fait 12 millions de spectateurs pour son final. Donc pour CBS, qui est un peu la chaîne en perte de vitesse, on va en parler tout à l'heure, c'est quand même une bonne chose. Par contre, ils ont effectivement annulé. Alors, je sais pas si tu sais pourquoi ils ont pas commandé la série. Je sais pas si t'as vu.
Non, pas du tout, mais après, alors, tu dis que le final de How I Met a fait 12 millions, mais enfin, je sais pas si tu vas parfois sur la page Facebook, dès que How I Met met une news, ou je sais pas, enfin, ou une image, mais c'est du bashage, mais incroyable, quoi. Enfin, c'est vous avez ruiné la série, enfin, et je pense que CBS, ils doivent voir un peu ça, ils disent, mais qui va venir regarder cette nouvelle série, vu que on se fait défoncer sur la fin de l'ancienne, enfin. Je pense que ça garde une sale image du coup à Waymet et je pense qu'ils ont peur que ça fasse un bide total.
Ouais, mais image ou pas, celle image ou pas, ça reste quand même une marque importante sur laquelle tu peux faire quelque chose. CBS a pas commandé la série pour une raison extrêmement précise, c'est-à-dire que ils ont demandé à Craig Thomas, Carter Bay et Emily Spenvy, qui était la nouvelle showrunneuse du show, de retourner le pilote, exactement comme il a fait pour Big Bang Theory. Je sais pas si t'as vu la version originale de Big Bang Theory, le premier pilote qui a jamais été diffusé. Complètement différent que du celui qui a été diffusé. Parce qu'apparemment, il y a des problèmes de casting. Apparemment, il y avait deux acteurs, donc sur cinq, c'est quand même beaucoup, hein, c'est quasiment la moitié, qui n'étaient pas bons. Sans dire lesquels. Et face à ça, Carter Bay et Greg Thomas ont refusé, ont refusé de rejoindre les pilotes en disant que c'était leur pilote était très bon et que c'était la chaîne qui faisait une erreur. Ce qui peut un peu s'apparenter à une melonite, quoi. Je trouve. T'en penses quoi?
Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais ouais. Non, mais c'est. Ouais, même si les raisons sont un peu du coup obscures et peut-être pas justifiées, finalement, le choix est le bon.
Ouais, on verra. Je pense que cette histoire n'a pas dit son dernier mot. Je pense que ça reste quand même très possible que How I Met Your Dad soit commandé par une autre chaîne.
Attention, Cos le devin a
Alors, apparaître
parlé.
en janvier, par exemple. C'est pas impossible. J'ai parlé, hein. C'est ton pronostic. Donc, premier pronostic, Community reviendra en une saison 6. Deuxième pronostic, How I Met Your Dad reviendra aussi. Vous pouvez noter. Faire un troisième pronostic. Attention à quand ça va, je suis chaud. Mon troisième pronostic est que Charlie Sheen reviendra dans la dernière saison de Two and a Half Men. Parce qu'effectivement, on a appris que la saison, donc c'est 11, de Two and a Half Men serait la dernière. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire.
Ah, j'y crois pas trop à ton pronostic là. Il s'est quand même pas mal fâché avec la chaîne et toute l'équipe. J'y crois pas du tout quoi.
C'est Hollywood, hein. C'est Hollywood, tout est possible. Il y a vraiment... des trucs complètement aberrants qui sont passés par le passé et des stars. Enfin, je te rappelle quand même que par exemple Dallas, la moitié du casting s'était barré, ils ont fait une saison et à la fin de la saison le casting est revenu et ils ont considéré que la saison entière avait été un rêve. Donc,
Ouais, mais alors on était dans l'autre sens dans Dallas. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est eux, c'est le casting qui était parti. Alors que là, c'est on l'a chassé quoi, Charlie 6. Enfin, on en veut plus de lui. Donc
ouais. Ouais, mais je pense qu'il a tellement marqué, il a tellement marqué la série, c'est tellement lui que je pense qu'il fera une apparition. Alors sachant que je sais pas si tu sais, mais il est quand même censé être mort, Charlie Harper, le personnage dans Two and a Half Men, que la saison donc 7 ou 8 où son remplaçant apparaît, ça commence par un enterrement, on apprend qu'il est mort, écrasé par un train, je crois, ou par un bus. Je pense que ça pourrait être le genre de conneries, genre son demi-frère qui doit apparaître en rêve ou un truc comme ça, quoi.
ouais, c'est possible.
Voilà, donc j'ai trois pronostics, vous pouvez les noter, et si jamais s'ils ne sont pas justes, je vous paye une tournée. Voilà. Allez, je vous dis 2 sur 3. Je dis 2 sur 3, c'est bon. Je vous paye pas de tournée. Par contre, si j'ai moins de 2 sur 3, je vous paye une tournée. C'est bon, Alan? C'est
Ouais,
noté?
pas de problème.
Ok. La dernière surprise de ces upfront, c'est la non-commande de spin-off pour Supernatural. On en avait parlé dans le dernier podcast. Personnellement, je m'en contrefous les steaks.
Ouais, moi aussi je m'en fous, mais c'est assez étonnant là. Je pensais que la CW allait surfer sur la vague spin-off et compagnie, et oh, je suis vraiment surpris quoi. Peut-être qu'ils sentent que le public n'est plus là pour Supernatural, mais ça m'étonnerait. Donc ça, j'avoue, j'arrive pas trop à l'expliquer.
L'épisode en question où, qui fait apparaître les personnages, les personnages qui auraient dû être dans le spin-off, c'est-à-dire les personnages qui, donc, l'action se passe à Chicago, l'épisode n'a pas fait un score de ouf, je crois. La chaîne n'a pas été convaincue par les personnages et par les acteurs, encore un problème d'acteur. Donc, je peux en comprendre. Ce qui est très bizarre avec Supernatural, mais j'avais déjà dit dans le dernier podcast, c'est que je comprends pas pourquoi ils sont pas fait de spin-off avant. C'est quand même le gros truc, il y a quand même une fanbase énorme. Il y avait largement de quoi de faire un spin-off, plus tôt, quoi. Plutôt que là, en saison 10 ou je sais pas comment ils sont rendus, 10 ou 11. Donc ça donne un peu un espèce de genre de oh, hop, on fait un spin-off. Enfin, je sais pas. Je trouve ça bizarre quoi, le fait qu'ils aient pas fait de spin-off avant. Voilà.
T'as quand même dit un truc marrant, c'est que la chaîne n'a pas été convaincue par les acteurs. Enfin, on parle quand
Ouais.
même de la CW, quoi. Enfin,
Ouais.
d'accord.
Ouais.
Ok.
Ouais, tout comme ça, tout est possible. Hein. Bah bon. On va enchaîner sur Upfront, sur les nouveautés de Upfront. En tant que tel, on a fait six petites rubriques que vous allez découvrir au fur et à mesure de ce podcast. La première rubrique, Alan, c'est le ou la nouveauté que tu vas absolument regarder cette année. Alors, qu'est-ce que tu vas regarder cette année? On va partir de septembre 2014.
Qu'est-ce que je vais regarder cette année? Alors en première, enfin j'ai donc choisi deux séries, puis on en a une en commun si je dis pas de bêtises. La première série que je regarderai, c'est Forever sur ABC. Attention, ça fait peur, parce que déjà c'est ABC, hein. Alors l'histoire, c'est un docteur joué par Johan Gruffudd. Alors peut-être que j'écorche son nom, c'est le gars qui jouait dans les 4 Fantastiques, là, Monsieur Fantastique justement, ou il jouait aussi dans Ranger. Donc c'est un docteur qui, bah, en fait, il a le pouvoir d'immortalité. Dès qu'il meurt, bah, il revient à la vie au milieu d'un espèce de lac, je sais plus où, là, enfin, où, dans une mer, je sais pas quoi. Et puis bah voilà, du coup, il va aider la police à enquêter sur des affaires. Bon, bah. Alors pourquoi j'ai envie de regarder ça? Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait grave, grave penser à John Doe. John Doe, une série dont je regretterai toujours l'annulation au bout de la saison 1, qui avait un potentiel monstre et tellement de mystères et enfin vraiment, vraiment intrigante. Et là, je sais pas, j'ai le fol espoir de retrouver un peu ce type de série. Parce que bon, vu comme c'est parti, ça sent bien les Loners avec, voilà, je résous l'enquête et puis bah, je vais crever entre deux, quoi. Mais j'espère vraiment que derrière, il y aura une vraie intrigue, un vrai background avec des mystères sur bah, cette immortalité. Donc voilà, et j'aime beaucoup l'acteur que je disais là, que j'avais vu dans Ranger il y a 2 ans. Je le trouve vraiment très bon. Donc voilà, mais après, là je sais que je me fais des faux espoirs, on est sur ABC et je pense que ça va pas être top, mais allez, j'ai envie d'y croire.
Moi, je pense que tu te fais carrément des faux espoirs. Moi, le truc me fait vachement penser à Journeyman. Le truc avec Kevin McKine,
Oui,
l'acteur principal de Rome. Je sais pas si
ouais,
t'avais vu
tout à
ça,
fait. Ouais, tout à
Journeyman,
fait,
avec
ouais,
le
je
mec
sais
qui
pas.
remontait dans le temps pour sauver sa femme par journée. Qui était vraiment pas terrible. Qui était plaisant, mais qui était pas terrible. Et qui était diffusé sur NBC, d'ailleurs. Je pense que
En
tu vas
fait,
vraiment avoir un truc complètement aseptisé, sans absolument aucune prise de risque, hein, sur Forever. Moi,
c'est
j'ai vraiment joué.
forcément. Mais en fait, c'est la bande-annonce qui a vraiment fonctionné sur moi parce que, comme je te disais, le gars, à chaque fois qu'on y revit, il ressort de l'eau. Et en fait, la première séquence dans John Doe, je sais pas si tu connais un peu John Doe, quoi, mais le gars, justement, ressort. Enfin, il sort aussi de la mer comme ça, enfin, d'un espèce de lac où il est à poil, comme le mec là dans Forever, et il se souvient de rien. Enfin bon, ça presque plus la même intrigue. Mais je sais pas, ça fait vraiment penser au même type de série. T'as limite le même plan, la même scène, et je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que j'ai envie de voir cette série. Mais oui, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, hein, t'inquiète pas.
Non, ok. C'est bien que ce soit réaliste comme ça, c'est bien. Et le deuxième show que tu vas regarder, on l'a au commun, c'est The Last Man on Earth. Pourquoi
Ouais,
tu vas
non, il y en a
regarder
un
The Last Man
troisième
on Earth?
aussi, hein.
Un troisième,
Il y a Bad
vas-y.
Judge aussi.
Bad Judge, ouais. Ouais, Bad Judge, ça me fait envie, moi aussi.
Alors c'est une comédie qui va être sur NBC. Alors c'est avec Kate Walsh, donc on a pu voir dans Grey's Anatomy ou Private Practice. C'est l'histoire d'une juge, donc c'est une comédie, l'histoire d'une juge qui a l'air un peu pas borderline, mais un particulière et assez osée. Et ça a l'air vraiment, enfin c'est très rare qu'une bande-annonce de comédie me fasse cet effet, mais ça a l'air vraiment drôle. Alors faut voir, mais ça a l'air très très fun. Et Kate Walsh a l'air juste génial dans son rôle.
Alors, je l'ai pas mis dans ma liste parce que j'en ai pris que deux. Mais effectivement, bah, je vais aller voir parce que, comme tu dis, l'abondance marche à fond, mais vraiment à fond. C'est hyper dur de faire rire en quoi, l'abondance dure quoi, 3 minutes.
C'est ça.
Ça marche vraiment à fond. Kate Walsh, elle a l'air d'être à donf dans ce qu'elle fait. Apparemment, c'est noté comme étant une des deux meilleures nouveautés de 2014. L'autre, on va en parler tout à l'heure. Donc moi, je vais y aller aussi. Je l'ai pas mis dans ma liste, mais je vais y aller aussi et ça a l'air vraiment très très bien. Donc Badger, je pense que vous pouvez faire une petite croix sur votre agenda. On ira revoir et de toute façon, on fera la critique sur le site. Et donc je disais la dernière nouveauté, c'est The Last Man on Earth. Alors là, The Last Man on Earth, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire en 2022 de Phil Miller, qui est le dernier homme sur Terre. Et voilà. Avec ça, t'as un pitch. C'est fait par Will Forte, qui est un ancien du Saturday Night Live. Et par le pilote est réalisé par les deux mecs qui ont fait 21 Jump Street, 22 Jump Street, la suite, arrive bientôt au cinéma en France, et le magnifique film The Lego Movie. Et voilà, donc il est seul acteur, tout seul. Je sais pas du tout comment faire pour que ça tienne aussi longtemps. Apparemment, il y aurait une actrice féminine pour l'accompagner, parce que la fille s'appelle The Last Man on Earth, mais il y aura une woman avec lui. Mais je sais pas trop comment ils vont faire pour tenir la distance. J'avoue que je suis très très curieux de voir ça. Je pense que c'est ton cas aussi, Alan, non?
Ouais, c'est exactement ça. C'est l'ambiance, enfin justement vu qu'il est tout seul sur Terre, c'est très très particulière. Non, ça a l'air intrigant, mais effectivement, ça peut s'essouffler un peu trop rapidement et faut voir. C'est vraiment de la curiosité, mais par contre, je pense que ouais, ça va pas fonctionner.
Ouais, en fait, c'est une très bonne idée de base, et c'est typiquement le genre de série où il faut qu'ils aient une deuxième idée derrière. C'est-à-dire que
Ça.
s'ils ont une deuxième idée qu'ils ne disent pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de secrets, parce que l'actrice est pas connue, je suis allé sur la fiche IMDb tout à l'heure, il n'y a pas de nom, enfin, le pitch est super court, c'est en une ligne. Donc si vraiment ils ont une deuxième idée et que ça relance le truc derrière, je pense qu'on tient vraiment peut-être une petite pépite. Par contre, s'il n'y a pas d'idée derrière, ce sera juste mort, j'irai pas voir la
Après,
suite.
qu'est-ce que tu peux faire comme idée? Ah bah en fait il y a encore des humains ou bah il y a des extraterrestres qui arrivent ou enfin c'est enfin rien qu'avec enfin ils sont déjà quand même déjà bien fermés dans les éventails de possibilités, je trouve.
Je pense que ça, je pense que ce qu'ils vont faire, ce sera une comédie entre un homme et une femme qui sont seuls au monde, sur deux personnages. Ce que j'ai jamais vu, hein, dans une série, hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Normalement, dans une comédie, dans une sitcom, il y a 5-6 personnages, quoi. Là, faire le truc sur deux personnages, ça va être tendu. J'aime vraiment bien cette nouveauté parce que je trouve que là, vraiment, c'est une prise de risque, quoi. C'est une prise de risque. Le pilote doit être très bon parce que pour avoir mettre une telle prise de risque à l'antenne, c'est que vraiment les mecs, ils doivent être convaincus de ce qu'ils font, quoi. Voilà. Que t'as autre chose à ajouter sur The Last Man on Earth?
Non, non. Et donc, du coup, toi, t'as
Ouais.
d'autres nouveautés qui te
Ouais, j'ai
disent?
une dernière nouveauté que je vais regarder, c'est Mulaney. Alors Mulaney, qu'est-ce que c'est? C'est la sitcom de John Mulaney, qui est un mec de stand-up comedy que j'aime beaucoup, qui fait des très très bons sketchs, notamment Saturday Night Live, chez Conan O'Brien, chez Jimmy Fallon, chez Jimmy Kimmel. Il fait de la comédie d'observation, un peu comme Louis C.K. Et John Mulaney, donc c'est l'adaptation d'un de ses spectacles en comédie. C'est en gros, ça va être la même chose que Seinfeld, A Show About Nothing. C'est un mec qui raconte la vie avec ses potes. Voilà. Je suis d'accord que le teaser est pas ouf. Le teaser est vraiment faible. Ouais.
C'est ce que j'allais te dire en fait. J'ai vu le teaser et moi ça me donne pas du tout envie. Ça a l'air lourdingue, ça a l'air chiant. Enfin,
Ouais.
ça me donne. Mais je crois que c'est une des sitcoms qui me donne le moins envie vraiment. Ça a l'air de. Je sais pas. Pour moi ça sent le plantage, mais alors après je connais pas non plus l'humoriste qui a l'air d'être connu. Donc c'est moi qui dois me planter. Mais je sais pas. Non, ça m'attire, mais absolument pas.
Ouais, sachant que c'est une sitcom qui avait été refusée par NBC l'année dernière. C'est-à-dire, c'est dire le niveau. C'est-à-dire quand t'es refusé par NBC, ça va pas, quoi. Et que la Fox, exactement comme ils l'ont fait d'ailleurs avec Avec Adam, comment il s'appelle, le mec qui a fait la sitcom, là, qui a eu Emmy Awards. Oh putain, je suis mort. Qui se passe dans le commissariat.
Brooklyn Nine-Nine.
Brooklyn Nine-Nine, ouais. C'est-à-dire que ça avait été refusé par NBC, c'est la Fox a recommandé un pilote. On voit le succès que ça, Brooklyn Nine-Nine, Fox est très contente de la série.
Ou à la qualité de Brooklyn Nine-Nine, voilà quoi.
Oui, non, mais la série est aimée par plein de gens sauf nous, donc bah, pourquoi pas après tout, tu vois. Là, je pense que Mélanie, ça peut être peut-être la même chose, j'espère le même succès. Je sais pas, j'irai voir aussi parce qu'il y a Martin Short, j'aime bien Martin Short, voilà. Mais c'est du qui tout double quoi, il a vraiment pas intérêt à se planter, je sais pas, j'irai voir pour voir s'il se plante. Voilà. Mais je pense que c'est très risqué comme cahier des charges. On verra bien. On va ensuite continuer avec la deuxième catégorie, c'est la nouveauté, le ou la nouveauté que tu vas fuir à toute vitesse. Et Alan, j'ai vu que dans ta liste, tu avais mis petit troll à John Carter.
Ouais, bah c'est pas une surprise, hein. Enfin, voilà, Agent of Shield, moi j'ai vu 2 épisodes, mais j'ai trouvé ça mais d'une faiblesse extrême. Je suis pas, donc j'ai vu Captain America 2 entre deux, donc je sais maintenant de quoi tu parles sur le renouveau de la série Agent of Shield.
Yep.
Mais bon, là on sera plus dans la même époque, on sera avec Agent Carter, et comme tu l'avais dit, je crois dans le précédent podcast, on connaît le début et on connaît la fin de cette série déjà. Enfin. Je sais pas, je sens que ça va être mou du cul.
Y a que 8 épisodes. Hein. Ouais, en fait, ça va être diffusé entre. Ils vont faire Agent of Shield, 10-12 d'épisodes, je pense. Pause. 8 épisodes de Agent Carter, reprise de Agent of Shield. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va être intégré dans le flashback, en fait. Ça va être un flashback, en fait, cette série. Ce qui est pas
D'accord,
con,
mais
tu vois, comme idée.
ouais, c'est pas con, mais je reste toujours sur ma mauvaise impression d'Agent of Shield et j'ai pas du tout envie de redonner sa chance à ce type de série pour le moment.
C'est con parce que je pense qu'Agent of Shield, tu reprends à partir de l'épisode 14-15, je pense que ça pourrait te plaire.
Je suis pas un grand fan de Marvel, donc ouais, mais non, non, je préfère m'attarder sur d'autres séries de super-héros qui vont arriver, style Flash.
Je comprends. Je comprends, je comprends. Et donc ta deuxième nouveauté que tu vas fuir, qu'est-ce que c'est?
The Odd Couple.
Avec Matthew Perry.
C'est ça, c'est une des raisons pour laquelle je vais fuir en fait.
Ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr.
Matthew Perry dans Friends, je l'aime bien, hein, il n'y a pas de problème, je trouve hein, Chandler est un personnage excellent. Depuis Friends, bah, c'est un peu compliqué pour lui, hein. Moi je l'ai vu dans Mr. Sunshine qui était, pour moi c'était nul quoi, c'était pas drôle, c'était très lourd, c'était pas, enfin c'était pas, c'était, puis Matthew Perry il en faisait des tonnes pour essayer bah, un peu de se démarquer. L'année dernière il y a eu Gohan qui était convenable mais que j'ai abandonné au milieu de saison car répétitif et puis pareil en fait c'est vraiment le problème Matthew Perry, le gars il essaye de prendre un peu trop la couverture sur lui et le show en pâtit donc c'est un peu dommage. Dans le même esprit, t'as Courteney Cox avec Coogarton, elle aussi, elle vampirise tout le reste et c'est fort regrettable. Puis alors, l'histoire me dit rien, quoi. Enfin, ces deux colocataires, t'en as un qui est bordélique et l'autre qui est un maniaque de la propreté, ben, oh, attention, non, ça va être super drôle, je le sens bien, hein.
Ouais, là, la prise de risque est vraiment absolument nulle pour The Odd Couple, parce que c'est un film des années 60 qui a été réadapté pour Broadway, qui a connu un bon succès à Broadway, et là, il le réadapte, donc il réadapte le succès à Broadway qui a été adapté du film en série. Donc là, je peux te dire que les mecs, ils sont tranquilles dans leur canapé, quoi.
C'est ça. Et je pense que ça va être nul. Enfin, ça va pas marcher. C'est du vu revu. Enfin, c'est pas du vu revu, mais ça donne pas envie. Enfin, on te raconte l'histoire comme ça, tu vas pas dire, oh bah dis donc, l'histoire, elle a l'air sympa. Je pense qu'on va bien se marrer. Non, je pense pas.
Ouais,
Non.
ça a l'air très poussif, effectivement. Et puis Matthew Perry, il a quand même une malédiction, comme tu l'as dit, avec Gohan et Mr. Sunshine, qui te poursuit quand même depuis la fin de Friends. Il y a un problème avec les... À part Courteney Cox et Jennifer Aniston, il y a quand même un gros problème avec les acteurs de Friends. Mais bon.
Ah, je suis pas d'accord. Matt LeBlanc dans Épisode, il est plutôt bon. Hein.
Ouais, mais Épisode, c'est quand même une série qui est quand même ultra confidentielle. Ça a l'air d'être très bien, mais c'est quand même ultra confidentiel. C'est-à-dire que personne ne regarde ce truc.
Ah, je sais pas. Je sais pas, mais je recommande Épisode parce que c'est vraiment bien. Voilà. Ouais, je préfère une série confidentielle qu'une série de merde comme Coogarton, quoi.
Cougarton, c'est pareil, j'ai vraiment du mal avec ça.
Ah bon. Bah, j'ai quand même vu deux saisons, hein, mais comme je disais, la course des coqs, c'est une hystérie qui phagocyte tout le monde. Et en fait, t'as l'impression de voir 5 gars boire des bouteilles de rouge pendant tous les épisodes.
Ouais, c'est ce que j'ai vu le pilote, hein, Cougarton, j'ai trouvé ça horrible. Du coup, j'ai pas continué. On va avancer un peu. Pour ma part, il y a deux nouveautés que je vais fuir. C'est pas vraiment que je vais fuir, mais que j'irai vraiment pas voir parce que c'est pas mon genre de série. Donc c'est le spin-off de NCIS Nouvelle-Orléans et le spin-off de CSI Cyber. Alors CSI Cyber, ça va quand même d'être énorme quand même, avec Patricia Arquette qui va rechercher les tueurs psychopathes sur le net. Je pense que ça peut être potentiellement nanar ce truc, hein, avec genre on a regardé ton compte Instagram, t'étais pas censé être là, un genre de connerie quoi, tu vois.
Ah non, ça a l'air nul. Enfin, là, j'ai vu la bande annonce, j'ai fait oh là 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 là.
En plus, c'est ça, c'est une franchise en train de mourir. Ils ont supprimé les deux Miami et Manhattan. Il reste plus que la série originale, donc je pensais vraiment que ça allait disparaître. La série fait moins en moins d'audience. Bon, je me suis dit, ok, c'est bon, t'as compris, quoi, t'as gagné de la thune, on va passer à autre chose, quoi. Et là, ils refont ça. Pff, oh là là là, oh, le truc, quoi. Oh, le vieux truc fin des années 90, début des années 2000, que t'as plus envie de voir, quoi, vraiment. Encore une fièvre, je peux comprendre, c'est la série numéro 1 aux États-Unis, bon. Moi, j'ai vu les épisodes de NCIS, j'ai pris du plaisir, tu vois. Mais CSI, les experts, mais c'est tellement à chier, quoi. Putain, mais, oh là là, quelle horreur. Bref, donc je vais agir à fuir, ce truc. T'as quelque chose à ajouter avant qu'on avance ?
Bah moi je pense, enfin j'aime pas trop NCIS, j'aime bien les experts mais de base, hein, les autres je les aime pas, mais j'aimais bien moi les premiers experts, je trouvais ça pas mal. Je pense par contre que NCIS New Orleans ça va bien marcher, comme tu dis NCIS c'est premier, et ça se passe à la Nouvelle-Orléans et ça c'est bon quoi, enfin ça va bien, enfin t'as un super décor, c'est pas la même culture, mais c'est quand même assez c'est différent le paysage et tout, enfin c'est, je pense que ça va plutôt bien marcher.
Ouais, je pense qu'ils prennent pas trop de risques effectivement là-dessus. On va avancer sur ma catégorie préférée, qui est la nouveauté What the Fuck WTF de cette rentrée 2014. Alan, tu as mis deux séries à ta liste.
Ouais, ouais. Alors la première, c'est Constantine. Alors What the Fuck, dans le sens, ça a l'air très très barré, quoi. C'est pas que ça a l'air pourri ou nanar. C'est que j'ai vu la bande-annonce. J'ai fait waouh, c'est particulier. Enfin, le héros a l'air très spécial, avec un contexte. Alors si j'ai bien compris, monde des vivants, monde des morts, qui peut switcher un peu à sa guise. Enfin les ennemis aussi. Enfin une espèce de bestiaire assez. Enfin ouais, on est dans le fantastique complètement. Et je sais pas, j'ai trouvé ça très très bizarre à regarder quoi. Bon, on verra, hein, mais je pense que ça va être une bonne surprise, enfin une bonne série, c'est adapté d'un comics, je pense que ça va être bien, mais ouais, sur le coup, je me suis dit, bah disons que ça va pas être pour tout le monde cette série, je pense.
Ouais, c'est adapté d'un comics, comme tu dis, donc c'est le comics Hellblazer qui a une très très bonne réputation, qui a connu vraiment des runs très très bons par plusieurs grands noms de la BD chez DC Comics. Moi, le pilote m'a fait quand même énormément penser, je sais pas ce que t'en penses, on en parlait tout à l'heure justement, à Supernatural. Ça pourrait être un épisode de Supernatural. D'ailleurs, le showrunner de Supernatural, le premier showrunner qu'il y avait, est fan de Hellblazer, et a fait plusieurs références à Hellblazer dans la série. Moi, ça me fait... Franchement, on dirait vraiment la transposition de Supernatural sur un grand network, sur NBC. Vraiment, je sais pas ce que t'en as pensé de cette comparaison là.
C'est possible, enfin j'ai jamais vu Supernatural donc je peux pas te dire, après c'est fort probable, mais je pense que ce sera un Supernatural sans le côté teenager. Et ça c'est déjà un grand pas en avant.
Ouais mais sans le côté teenager, ce que j'ai très peur, est-ce que beaucoup de fans de comics ont peur pour cette série, c'est qu'ils soient complètement aseptisés. À la base, Constantine c'est vraiment le mec sur club qui se drogue, qui ment. Qui agresse des gens gratos, c'est vraiment le personnage vraiment méchant quoi, vraiment qui a extrêmement peu de moralité quoi. Là c'est sur NBC un vendredi soir sur une casse-gueule à 20h30. Moi j'ai peur vraiment que ce soit un truc aseptisé quoi. Je sais pas, j'avoue que je sais pas quoi. Déjà en plus quand ils avaient fait le film Keanu Reeves tout l'aspect crade du personnage, tout l'aspect consommateur de Ce Matter Dog, il l'avait lavé, quoi. Là, j'ai un peur que ça soit la même chose, quoi.
Ah, après, NBC, il passe Hannibal et c'est...
Ouais. Mais Hannibal, c'est en seconde partie de soirée.
Ouais.
Bon. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je vais voir Constantine parce que j'aime bien le personnage de comics, mais... Et que j'aime bien l'acteur qu'ils ont pris. Mais je pense que c'est très très casse-gueule. C'est la case où ils l'ont mis, il est vraiment casse-gueule. Ta deuxième nouveauté, que j'aime beaucoup, c'est...
Selfie.
Yeah.
Oh yeah, comédie avec BC. Alors là, mais... Je sais même pas quoi dire devant cette bande-annonce. Enfin, alors je sais pas si ça, la bande-annonce va être comme dans la... Enfin, est-ce que ça va être... C'est un reflet de la série, parce que je sais pas si t'as vu la bande-annonce, mais tu vois plein de trucs de réseaux sociaux à l'écran, genre des hashtags et tout. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, alors l'histoire, c'est une femme qui on la filme, je crois, dans un avion, dans une scène un peu humiliante. Et du coup, ben, ça fait le buzz sur Internet. Et ben, du coup, tout le monde se moque d'elle. Et elle engage quelqu'un pour la coacher, pour lui redorer un peu son image. Donc c'est avec Karen Gillan, si j'ai compris.
Ah, Karen Gillan.
Ouais, Gillan, pardon. Donc la Amy, je crois, de Doctor Who, si je dis pas de bêtises.
Oui, ça.
Donc elle est super mignonne, hein, y a pas de problème, mais ça a l'air, enfin horrible à regarder, pas drôle, et je t'assure j'ai vraiment été, bouche bée devant ces incrustations de morceaux de réseaux sociaux là, je sais pas, j'ai trouvé ça très bizarre, genre c'est un peu genre on est la série 2.0 super moderne et tout, et ça a l'air affreusement kitsch. Et puis Nawak, quoi, enfin, c'est vraiment... Oh là là, ça a l'air mais vraiment nul. Enfin, comédie pour sûrement adolescent. Mais ça, pour moi, ça a aucun intérêt. Et ça m'a fait marrer, quoi. Je me suis dit, on peut proposer vraiment des séries comme ça. Enfin, t'as l'impression limite que c'est un travail d'amateur. Donc c'est dur, quoi.
C'est effectivement flippant. On va reparler juste après de la stratégie d'ABC pour cette rentrée qui... qui prête à rire ou pleurer, je sais pas trop dans quel sens le prendre. Et donc, pour ce qui est de ma part, la nouveauté What the Fuck, c'est Jane the Virgin, qui me semble être un petit bijou, que je vais vraiment regarder, hein, parce que vraiment le pitch me fait mourir de rire. Donc c'est l'histoire de Jane, qui est une jeune adolescente, qui est vierge, et qui tombe enceinte. Et voilà. Et voilà, voilà. Voilà, sur la CW. Je pense qu'on va se fendre la gueule avec ce truc. C'est adapté d'un bouquin, en plus, écrit par un auteur sud-américain. Le pitch, quand même, est assez débile, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. Faire un bouquin sur « Elle est vierge, elle tombe enceinte, elle est adolescente, tanana, on vous fait une série.
Wow. » Alors après, il y a aussi le contexte familial, dans une famille, je crois, latino assez...
Latino, ouais, très, très, très croyante.
Ouais, voilà. Je sais pas, en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait penser à Ugly Betty dans l'esprit, je sais pas pourquoi. Le truc léger, ça me fait penser à une telenovela, enfin, ça a l'air, franchement, à la limite du nanar, je pense que ça va être nanar, finalement. Et alors là, par contre, je comprends pas la stratégie de la CW de proposer ça, enfin, eux qui, quand même, je trouve, depuis 2 ans, sont sur la bonne pente. Putain, proposez pas ça les mecs, c'est quoi ça, ça rime à rien. Ou alors peut-être qu'ils ont un quota, faut qu'on fasse une série merdique par an minimum, quoi.
Ou une série de niche, je sais pas, ça fait très série, on s'avise de public, c'est-à-dire le public croyant, protestant, qui est quand même assez nombreux aux États-Unis, plus le public sud-américain.
C'est complètement contradictoire avec l'esprit de la chaîne. Enfin, c'est quand même la chaîne où c'est que des histoires de teenagers avec des ados qui couchent avec l'un avec l'autre. Et
mais ouais, mais c'est toujours chaste. La CW, c'est toujours chaste, la vision de sexe. Il n'y avait que Buffy. C'était même pas la CW à l'époque. Il n'y avait que Buffy qui était plus ouvert officiellement.
Warner à l'époque.
Ouais, Warner. Putain, mais la bande c'est tellement nul, quoi. En plus, oh là là. J'ai vu le pitch, j'ai couru sur la bande tout de suite. J'ai regardé ça, j'ai fait oh non, mon dieu.
Ah, puis les acteurs, ils ont l'air bien mauvais aussi.
Ils ont l'air très très mauvais. L'actrice principale, elle a l'air d'être vraiment nulle à chier, quoi. Mm. Bref. On va passer sur la quatrième rubrique, qui est la rubrique, ma rubrique préférée, la rubrique quotienne, qui est la rubrique des paris. Alors, qu'est-ce qui va se faire annuler en premier d'après toi, Alain?
Alors, moi, je mise sur une série qui s'appelle Backstrom. Et ouais, déjà le nom, ok. Une série sur la Fox qui parle d'un enquêteur de police au caractère autodestructeur. Ça a l'air d'être un putain de grognon de la vie qui aime rien dans la vie. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais non, mais ça va pas marcher, ça c'est pas possible. Le héros est antipathique au possible. Enfin, je veux dire, ça existe des héros antipathiques mais qu'on apprécie quand même, genre House. Et lui, mais c'est impossible de s'attacher à un mec comme ça, je pense. Il a l'air horrible à regarder, à écouter, même à tout en fait. C'est un peu méchant ce que je veux dire, mais visuellement déjà, ça donne pas envie. Alors, je pense pas que le public va suivre, surtout qu'on va se taper enfin, du cop show basique, quoi. C'est-à-dire que c'est un cop show avec un personnage anti-charismatique. Bah, ça va pas trop. Enfin, et ça va pas. Pour moi, ça c'est un échec avant même d'apparaître à l'écran.
On dirait un mélange extrêmement subtil entre Dr. House et Sherlock Holmes. Sachant que Dr. House était déjà adapté de Sherlock Holmes. C'est vraiment le mec antipathique qui mène l'enquête, quoi. Avec l'acteur principal qui joue dans The Office. Moi, c'est pas sur ça, c'est pas sur l'acteur, c'est plutôt sur le pitch qui a vraiment l'air d'être absolument un truc sans idée, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un truc qu'on a déjà vu 15 fois. Enfin. Depuis le retour de l'anti-héros à la télé, là vraiment les mecs ils disent bon on va faire un anti-héros de base et on est dans un cop show quoi.
Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
Pour moi, mes nouveautés qui vont se faire annuler en premier, c'est comme on en parlait tout à l'heure, donc les nouveautés sitcom d'ABC, il y en a quatre. Alors les quatre, donc il y a Selfie dont on a parlé tout à l'heure, ça sera déjà annulé directement au bout de trois épisodes. Ensuite on a Blackish qui raconte l'histoire d'une famille black devenue riche et donc dont le père se rend compte qu'ils ont plus de valeurs en gros entre guillemets black. Donc du coup il décide de réinculquer les valeurs black à son fils. Donc voilà. Ensuite on a une sitcom qui s'appelle Christella qui a été créée qui est co-créée par une meuf qui fait du stand-up comedy mais que avec des blagues visées sur les Mexicains. Donc ça va être la vie sa vie avec elle avec sa famille qui est forcément envahissante. Et la dernière nouveauté, qui est peut-être ma préférée, qui s'appelle Fresh from the Boat ou Fresh off the Boat, qui raconte l'histoire d'une famille asiatique qui emménage aux États-Unis. Donc là, on a bien les quatre segments de ABC, c'est quatre sitcoms segmentantes, la sitcom pour les Blacks, la sitcom pour les Asiatiques, la sitcom pour les Sud-Américains et la sitcom pour les hipsters, les jeunes, Selfie. Donc là, les mecs, vraiment, franchement, c'est du foutage de gueule, quoi. ABC, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Quatre sitcoms, hop, on a un autre public pour chaque sitcom, hop, emballé, c'est pesé, au revoir. Si je devais en choisir une des quatre, je pense que je prendrais Selfie, parce que c'est vraiment là le truc le plus ridicule. Mais quand même, les trois autres ont quand même du gros, gros potentiel, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Alan, de ça?
Oh ouais, c'est un désastre. C'est même révoltant, je trouve, de proposer ça. C'est pas possible de. Je sais pas. Enfin, non, les mots me manquent parce que là, je trouve ça vraiment révoltant de proposer des sitcoms de. Enfin, racistes à moitié. Enfin, c'est pas normal d'avoir des. Enfin, après, faut voir. Enfin. Connaissant ABC, ça va être très mal fait, mais après, il y a eu des sitcoms, genre le Cosby Show, c'était bien réussi alors que c'était sur une famille de noirs et tout. Mais là, par exemple, là, comment ça s'appelle, celle avec les Sud-Américains, là, les.
Christella.
Ah ouais, mais ça.
Ah c'est ça, c'est violent, hein.
Ah
Les
ouais,
blagues elles sont
c'est.
violentes, hein.
Ah ouais, c'est. Comment il y a des. Enfin, en fait, déjà, même les acteurs en soi, qui sont donc de cette communauté, mais comment ils acceptent de jouer ce rôle-là? Enfin, je comprends pas. Bon, on va dire, c'est de l'autodérision et tout. Moi, je trouve pas, c'est de la stupidité.
Je suis d'accord. J'ai rien de plus à dire. On va avancer sur l'avant-dernière rubrique qui est donc quelle série va avoir une saison 2 automatiquement. Donc moi j'ai mis deux trucs. J'ai mis The Flash, donc qui est l'adaptation du comic The Flash en bande dessinée, dont le héros est déjà apparu dans Arrow. Donc ça, il n'y aura aucun risque sur la CW Arrow cartonne, je vois pas pourquoi Flash cartonnerait pas. Et la deuxième nouveauté, c'est How to Get Away with Murder. Donc c'est une série de Shonda Rhimes. Donc la créatrice de Scandal et de Grey's Anatomy, qui prend pour point de départ une prof de droit pénal qui enquête avec ses étudiants, avec une actrice black assez connue, j'ai pas le nom en tête. Donc c'est du Shonda Rhimes 100%. Moi j'adore Shonda Rhimes, je trouve que c'est quelqu'un, une showrunneuse qui fait des séries que tu peux critiquer, hein, y a pas de problème. Grey's Anatomy y a plein de défauts, mais au moins c'est-à-dire que ça bouge quoi, ça pulse quoi, ça va à toute vitesse, il se passe toujours des trucs, y a jamais au moment de s'ennuyer quoi. Elle est vraiment en train de prendre un poids important dans les networks américains, Shonda Rhimes, sachant que le jeudi soir sur ABC, donc à 20h t'as Grey's Anatomy, ensuite à 21h t'as Scandal, et ensuite à 22h t'as How to Get Away with Murder. Donc en gros le jeudi soir c'est sa case quoi, c'est trois séries à elle qui sont diffusées à la suite. Donc je pense que Grey's Anatomy va servir de très bon lead-in à Scandal, qui va aussi servir de lead-in à How to Get Away with Murder. Donc je pense qu'il y a vraiment aucun risque là-dessus. Je pense qu'il y aura une saison 2 pour cette série sans problème.
Voilà. Je suis moins convaincu que toi. Ouais. J'ai l'impression que ça ressemble un peu trop à Scandal justement, et que ça peut lui faire du tort.
Scandal, c'est pas de l'enquête, hein. C'est des mecs qui font du. T'as déjà vu Scandal ?
Oui, un peu, oui.
C'est plus un show et vraiment avec beaucoup de guillemets politiques. Là, t'as l'impression que c'est plus voilà, c'est un cop show quoi. C'est un cop show dans un milieu universitaire.
Je suis pas convaincu.
Ok. Non, hein. Ok.
Moi, pour les séries dont je pense qu'il y aura une saison 2 automatiquement, il y a Gotham sur la Fox, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Enfin, pourquoi ? Parce que c'est l'univers de Batman, parce que le casting est solide, parce qu'en fait c'est un cop show mais assez typé, avec une vraie empreinte, un vrai caractère, et je pense que ça va plaire très rapidement. Je vois pas la Fox se planter sur ça en fait. J'ai du mal à le croire.
Non, il n'y a aucun risque.
Voilà. Et là, c'est l'autre série que je ne pensais pas. Enfin, je vais expliquer pourquoi je pense ça. Alors, je sais pas si on dit iZombie ou iZombie. Je sais pas trop.
iZombie.
iZombie. alors, c'est sur la CW. Alors, c'est l'histoire d'une étudiante en médecine qui est devenue un zombie et qui. Elle travaille dans une morgue et elle va s'alimenter des cerveaux des gars qui sont dans la morgue pour prendre leurs souvenirs. Et en fait, du coup, ça va être un espèce de cop show où derrière, ils vont résoudre des enquêtes avec des policiers et tout, quoi. Alors, pourquoi ça va marcher ? Enfin, pourquoi je pense que ça va fonctionner ? Parce que c'est sur la CW, c'est quand même un programme original, enfin on n'a jamais vu ça sur cette chaîne. Sur le principe, ça m'a fait penser à une série, je sais pas si tu connais, Koss, qui s'appelait True Calling.
Oui. Avec Elisa Dosco.
Ouais, c'est ça. C'était une jeune fille qui avait elle voyait des morts et en fait le mort ressuscitait à moitié pendant 2 secondes pour lui dire aide-moi, et elle se téléportait dans le passé une journée avant pour changer un peu la donne quoi. Et ça me fait vraiment beaucoup penser à ça, et j'avais bien aimé à l'époque, et je pense que ça va marcher sur la chaîne, ça va plaire. Connaissant la CW, si au bout de 2-3 épisodes il y a du public, eux cash ils renouvellent, hein. Eux ils se posent pas de questions. C'est de toute façon ils réfléchissent pas trop sur cette chaîne, hein. C'est en avant et puis on verra bien. Et je pense que vraiment ça va fonctionner, j'y crois. C'est ça paraît con, hein, mais j'ai pas vu, y a pas de bande annonce, y a rien. Donc je sais pas trop ce que ça va rendre à l'image, mais sur l'histoire, je me dis ça va marcher. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va marcher.
Ouais, excuse-moi, hein, j'ai l'impression que c'est un peu basé sur rien. Moi, le truc iZombie me fait quand même assez peur. Je sais pas, je trouve que, comment dire, je trouve que le teaser est moche, quoi. C'est-à-dire que l'image, le cadre de l'image qu'ils ont posé est vraiment est vilain, quoi. Et en plus, moi, les séries de zombies, j'en ai vraiment la casquette, quoi.
Et justement, donc, c'est pour ça aussi que je pense que ça va marcher, parce que ça marche, les séries de zombies.
Oui, non, mais t'as raison de l'avoir mis là, mais ça marche pas tout le temps, il y a eu des busts, mais bon, pourquoi pas, bon, on verra bien, de toute façon, on peut faire le pari.
C'est mon pronostic à moi.
C'est, voilà, pronostic de Alan, beaucoup plus faible que pronostic de Koss. on va enchaîner sur la dernière catégorie, qui est la nouveauté de l'année dernière, que tu vas regarder cette année, et moi, j'ai mis Mom, effectivement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs passes. Mom... donc série de Chuck Lorre qui raconte l'histoire de trois femmes, trois générations de femmes qui vivent sous le même toit. Ça partait vraiment de rien, c'est une sitcom ultra classique que j'attendais pas. et qui au fur et à mesure des épisodes s'est vraiment révélée par non seulement être drôle, mais aussi poignante. Alors il y a un discours sur sur l'avortement qui est assez immonde, c'est-à-dire que ils envisagent la fille tombe enceinte à la fin du pilote et ils discutent jamais de l'avortement, donc c'est soit en gros on donne le bébé, soit on accouche, soit on garde le bébé. Donc ça c'est vraiment limite, enfin tu dis que c'est pas possible de faire ça en 2014. Mais malgré ça, j'ai vraiment adoré la sitcom, il y a vraiment des épisodes très très bons. L'actrice qui joue la mère est vraiment énormissime, elle a des punchlines de ouf. Enfin vraiment, elle se démène, tout ce qu'elle dit c'est drôle, c'est toujours un timing, un tempo de la comédie vraiment parfait. Donc vraiment même sans problème quoi, sans problème du tout.
Bah tu m'as toujours pas donné envie de le regarder donc... Oui, hein. moi ce sera...
Tu es méchant.
Oui, je sais, je suis méchant. Moi, ce sera The Wrong Man, pour moi, une des meilleures nouveautés de 2013-2014. Parce que c'était, enfin, c'est anglais, enfin, ça aussi, je crois que j'en ai déjà parlé en podcast. C'est une série anglaise, donc c'est, enfin, déjà, tu sais que tu pars pour pas beaucoup d'épisodes. Chaque épisode est assez dynamique. C'était drôle, c'était décalé, je vois pas pourquoi je regarderais pas la suite alors que la saison 1 est une réussite de bout en bout. Donc, ce serait aberrant de ne pas continuer ce programme.
C'est diffusé en septembre, The Wrong Man ?
Ouais, tu sais, après c'est les diffusions britanniques, hein, donc, mais la saison 1 a été diffusée en septembre-octobre, donc j'ai bon espoir que la saison 2 revienne en septembre-octobre aussi.
Ok, mais c'est vrai que ça a l'air très bien, ça a l'air très bien. J'irai voir. On va clore cette série de pronostics, cette catégorie sur les upfronts, et on va enchaîner sur la nouveauté de la semaine. Et la nouveauté de la semaine, c'est Halt and Catch Fire. Alors, est-ce que tu peux faire un petit topo sur Halt and Catch Fire, Alain ?
Donc, on est dans les années 80, à Dallas, donc encore une série semi-historique, en passant. Donc, ça parle, en fait, de... Par où commencer ? En fait, c'est un peu le vrai essor des ordinateurs. Donc on suit une société qui construit des ordinateurs. Bon, alors l'époque, le grand numéro 1, c'est IBM. Et donc du coup, on va suivre pour ce pilote deux personnages, puis après un troisième, et on commence par deux personnages. Donc le personnage de Macmillan en premier, donc c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup d'ambition, qui se donne les moyens de ses ambitions, qui tente des coups de poker et tout. Alors, c'est un peu la tête pensante de... Enfin, la tête pensante. Ils sont un peu tous les deux tête pensante. C'est un peu lui qui va faire tout ce qui est tchatch, effectivement, tout ce qui est relation. C'est un peu lui quand même le chef du duo. Parce qu'il y a un deuxième personnage qui s'appelle Gordon, qui lui est un ingénieur informaticien, et qui lui, par contre, excelle dans son domaine, quoi, et est vraiment très bon. Et donc, en fait, ils vont essayer... Le premier épisode raconte ça, ils vont essayer de reproduire la puce qui fonctionne chez IBM pour gagner à leur tour de l'argent et même faire quelque chose de meilleur pour être les numéros 1. Quoi. Sauf que bon, bah, il y a des problèmes au niveau de la loi et tout, et de ce fait, à la fin de l'épisode, bon, je spoil un peu, mais ils recrutent une nana qui a rien à voir avec le tout pour créer cette puce. En fait, on pense que la série va s'articuler autour d'un duo, mais finalement ça va être un trio. Donc ouais. Voilà. J'ai pas été très clair dans mes explications.
Non, mais c'est en gros, c'est le début de l'informatique, c'est le début de l'essor de l'informatique des États-Unis au début des années 80. Hein. Voilà,
c'est ça. Mais on est quand même sur un cadre de compétitivité et un peu d'illégalité, quoi. Pour
ouais, justement... parce que la personne qui a de l'ambition, donc je sais le nom du personnage, Macmillan travaille pour IBM et en fait, entre guillemets, les vole, quoi.
C'est ça.
Ils volent leur invention. Je vais commencer par donner mon avis là-dessus. C'est peut-être lié au fait que je regarde la série en même temps, mais j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment Breaking Bad dans le milieu de l'informatique. Vraiment. C'est pas exagéré de dire ça, puisque j'attendais vraiment énormément du pilote, et j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment un ensemble de choses qu'on avait déjà vues, notamment du côté de Breaking Bad, c'est-à-dire que c'est l'association de deux misfits, un comme Tidy qui est ambitieux et qui possède la tchatch, l'autre qui est un peu plus nerd mais qui est vraiment super doué, qui a du talent. T'as la femme, donc la femme du nerd qui s'oppose à eux pendant la moitié du pilote. T'as une même façon de travailler l'image, avec un jeu sur les couleurs, sur le noir, sur le rouge, sur le jaune. Vraiment la scène où ils montent leurs propres bijoux, leur propre ordinateur dans le garage, on croirait vraiment voir Jesse et Walt cuisiner de la meth, quoi. Vraiment, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Alors oui, c'est pas à fond du Breaking Bad, il y a autre chose, il y a un autre propos, quoi. Mais j'ai vraiment trouvé que ça collait vraiment trop à la série, que ça manquait un peu d'identité propre, quoi. Et je pense que c'est un peu voulu par la chaîne qui cherche à renouveler le succès de la série. Alors, les acteurs sont vraiment excellents, hein. Lee Pace, qu'on a vu dans Pulp Fiction Daisy, est vraiment énorme, il fait une prestation de ouf. La jeune femme là dont tu parlais, une actrice que j'avais jamais vue, est complètement hallucinante. Le générique, franchement, c'est un des meilleurs génériques de série que j'ai vu de ma vie. Le sujet qui est ultra compliqué, moi franchement j'y connais que dalle en informatique. Les mecs, ils ont réussi à m'intéresser à des trucs ultra complexes. Donc ouais, là c'est vraiment un exploit sur ce côté-là, quoi. Ils ont vraiment réussi à capter mon attention. Mais je pense qu'il faudra vraiment autre chose, quoi. Il faudra vraiment que la série parvienne à trouver une écriture propre, sa propre voix, pour vraiment devenir un must-see pour moi, quoi. Voilà. Toi, je sais que t'as aussi quelques réserves, Alan, sur Halt and Catch Fire.
Bon, tout d'abord, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve le générique, mais juste génial. Enfin, comme tu
Ah,
dis,
il est ouf.
c'est un des meilleurs génériques que j'ai vu, si bien visuellement que. Mais la musique, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. C'est le générique, souvent, je m'en fous un peu, mais alors là, enfin, je me suis dit en lançant l'épisode, je me suis dit, putain, si l'épisode est du même acabit que le générique, on est bien là. Bah,
Ouais, même
comme tu
chose.
dis, ça ressemble beaucoup à Breaking Bad. Bon, après, il y a quand même des différences. Hein. On n'est pas sur un duo, on va être sur un trio, donc ça a changé pas mal de choses. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de. Enfin, dans Breaking Bad, t'as Walt la tête pensante et Jesse le, enfin, on va dire le padawan, celui qui exécute les ordres. Alors que là, enfin, parmi les trois, il y en a pas un qui est vraiment con. Enfin, certes, le nerd, il se fait un peu bouffer par le charisme de l'autre, mais c'est quand même grâce à lui qu'ils vont réussir à sortir la puce, quoi. Donc, je trouve
Ouais,
qu'il y a.
l'opposition n'est pas aussi catégorique que ça,
Ouais,
oui,
c'est ça,
je
ouais.
suis
Je trouve
d'accord.
que là où il y a une vraie opposition, effectivement, dans Breaking Bad, là, je trouve qu'il y a plus une complémentarité dans cette équipe. Après, c'est. Oui, comme tu dis, ça manque. Enfin, c'est assez classique, finalement. Alors, on est dans un milieu que tu ne connais pas. Moi, je connais un peu plus. Malheureusement, pour moi, peut-être, j'ai compris presque tout ce qui est raconté en termes d'informatique. Mais bon, ça paraît. Par contre, je peux dire que c'est cohérent dans ce qu'il raconte. Hein. Donc, c'est déjà
Ok,
une bonne chose.
ça, je me suis vraiment posé la question.
Non, 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 ça paraît. Enfin, pourquoi que ça cohérent putain, les mecs, ils arrivent à ressortir à l'envers la puce. Enfin, bon, c'est un peu too much, mais bon, c'est rigolo, quoi. Mais par exemple, le truc avec les lumières, là, c'est vrai, quoi. C'est une vraie. C'était vraiment comme ça, quoi.
Ok.
Moi, j'aime bien le casting. J'aime beaucoup la femme du nerd. Je pense que ça va être un des points importants pour la suite de la série. Je sais pas, je le sens comme ça. Le
Oui,
truc.
je suis d'accord avec toi, oui. L'actrice est vraiment très bonne. De toute façon, les acteurs sont très bons dans cette série.
Ouais, oui, bah la jeune là, la blonde là aux cheveux courts, waouh! On la connaissait pas, mais waouh!
Ouais.
Non, mais en fait, t'as presque tout dit. Ça se regarde. Ah oui, si, une bonne chose. C'est un pilote de 45 minutes, quoi. Merci, merci, c'est pas une heure. Bah, franchement, ça me fait grave plaisir, quoi. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Mais j'ai peur qu'on s'ennuie peut-être rapidement. Enfin, je sais pas, les mecs, ils vont construire leur truc. Et puis, bah voilà. Enfin, j'arrive pas à me projeter en me disant, il va avoir ça comme merde qui va arriver et tout. Ça me paraît un peu trop lisse et. Je sais pas, ça m'a pas. Je vais sûrement regarder la suite, mais je suis pas non plus dans un état d'excitation fou. Hein.
En fait, il manque ce petit truc qui est un peu inqualifiable, petite étincelle qui fait que tu te dirais, ok, c'est bien, ça se lance. Il manque un petit truc d'intrigue, un petit truc d'intrigue pour que tu continues à regarder, quoi. Le thème abordé a l'air d'être est vraiment abordé vraiment avec intelligence et classe, mais comme c'est tellement un thème abscon pour beaucoup de gens, en fait, ça manque d'enjeu, quoi. Il manque un gros enjeu dans le truc. Parce que l'enjeu dans le pilote, c'est se faire choper, quoi. Se faire choper ou pas se faire choper. C'est pas ouf, quoi. Enfin, je sais pas.
Mais je suis d'accord avec toi, et en fait, ça me fait penser à. Enfin, pour moi, AMC ne prend aucun risque, en fait. C'est justement, ils prennent les recettes un peu de Breaking Bad et ça va rouler. Enfin, je suis sûr que ça va plutôt bien fonctionner, mais comme tu dis, ça va pas être la série du siècle, je pense pas.
Ouais, je crois que c'est. Moi, j'ai tout dit de ton côté.
Pareil.
On va enchaîner alors avec nos coups de gueule, coup de cœur, coup de gueule. Je vais commencer par mon coup de cœur. Pas de coup de gueule cette année, pas de coup de gueule cette semaine. Donc mon coup de cœur, c'est 24 heures chrono, qui est revenu pour 12 épisodes cette année. Alors j'ai fait la critique du pilote sur le site, comme vous avez pu le lire ou pas. Je me régale les mardis soir à regarder cette petite truc. C'est vraiment la grosse déconnade. C'est 24 heures chrono. Il y a eu 3 ans et demi d'absence sur la série. Et les mecs, ils font le même show, la même série. Avec les mêmes rebondissements. Les méchants terroristes. Jack qui torture. Le traître. Audrey. Le président. Ah, c'est reparti, quoi. Alors, c'est hyper fun au début. C'est-à-dire que tu regardes les 3-4 épisodes, tu te dis, putain, c'est génial, ça partit, c'est débile, voilà. Bon, tu te prends la gueule. Les deux derniers épisodes, je trouve que c'est un peu plus gênant. Dans le dernier épisode qui a été diffusé, qui est l'épisode 6, vraiment, ils sont allés hyper loin. Ils ont fait une sorte... En fait, Jack s'infiltre chez les méchants. Et pour rendre crédible son infiltration, pousse la partenaire avec qui il travaille à se faire torturer. En fait, c'est une torture, mais complètement inutile, quoi. Juste pour renforcer la crédibilité de Jack Bauer. C'est débile. Enfin, quand tu réfléchis 30 secondes, tu pourrais dire, ok, bon, il a pas besoin de ça, quoi. Il pourrait faire autrement pour se faire accepter de l'organisation méchante, quoi. Et non, donc, t'es reparti, c'est re-torture. Je t'étouffe avec du linge, je te fous de l'eau sur le corps, je t'électrocute. Je te fais des coups de perceuse, enfin vraiment le truc débile quoi, c'est vraiment hyper violent et assez insupportable. Mais non, mais c'est complètement justifié par le script, parce qu'à la fin Jack finit par avoir les informations qu'il voulait. Donc putain mais merde quoi. Merde, enfin on est en 2014, la société elle a évolué, le regard sur la torture il a aussi évolué, je pense que t'as pas le droit de faire ça quoi. Donc oui, je prends vraiment du plaisir à regarder cette saison 9. Qui a aussi l'avantage d'être en 12 épisodes, c'est-à-dire que il y aura pas de trou, dans 24 heures chrono, traditionnellement il y avait 5 épisodes, si vraiment je suis gentil, qui étaient vraiment chiants, où il y avait l'intrigue était au point mort, où il faisait re-évader le méchant pour rallonger la sauce. Là je pense que t'auras pas ça. Par contre non, c'est la même série quoi. C'est vraiment la même série quoi. Les mecs ils ont vraiment pas pris de risque quoi. Tu vas regarder la saison 9 de 24 heures, Alan ?
Non, j'ai juste vu la une, ça me suffit pour le moment. Ouais, est-ce que t'aimerais voir une saison 10 ?
Je sais pas, ça dépend du devenir du personnage de Jack Bauer, parce que sans qu'il fasse ce talent, il n'y a pas de série, le mec fait vraiment tout. Il y a un épisode, il ne parle pas de l'épisode, vraiment il parle pas, il dit genre deux phrases, dans le pilote, il est muet pendant toute la moitié de l'épisode. Enfin, le mec il est juste là quoi, c'est Jack Bauer, voilà, la série porte sur ses épaules quoi. Il y a des punchlines mais tellement de nanas marrants quoi. Il dit essaie de négocier avec lui parce qu'il a des otages. Bon, comme forcément c'est 24 heures chrono. Le mec il fait je vais négocier avec vous, Jack il fait non, il y a aucun moyen que vous négociez avec moi. J'ai 3 otages, si vous bougez un moindre petit orteil, j'en bute un. Fermez votre gueule. Voilà. Tu vois ce genre de truc alors, c'est marrant quoi, c'est 24 quoi. Donc ça dépend de la fin de la saison. Je pense que Fox attend les scores de la série pour voir s'il prolonge ou pas. Ça fait globalement les mêmes scores que la fin de saison 8, qui n'était pas considéré comme un bon score. Fox est 8 millions ou 9 millions de spectateurs. Je sais pas. S'il y a une saison 10, je regarderai, parce que c'est 24 heures chrono. La série a quand même l'avantage d'être accessible de tout temps. C'est-à-dire que même toi qui as vu la saison 1, là, tu pourras reprendre la saison 9, tu n'auras pas manqué grand-chose. Parce que, en fait, la série quasiment se reboot à chaque début de saison, en fait. Comme il y a tellement eu de morts et tellement de traîtres des saisons précédentes, il y a que Jack Bauer qui est resté comme fil rouge de la série, et Chloé O'Brien, qui apparaît que dans la saison 3. Donc il y a pas de souci, vraiment c'est ultra accessible pour un nouveau téléspectateur. Est-ce que je veux une saison 10? Je sais pas. J'attends la fin de la saison et je te redonne mon avis. On en reparle de toute façon. Et toi, t'as un coup de cœur et un coup de gueule, c'est ça?
C'est ça, je vais commencer par le coup de gueule, c'est sur la fin de la saison 5 de Modern Family.
Je l'avais dit.
Ouais, non, attends, c'est pas que c'est vraiment mauvais, enfin ça se regarde, mais enfin, de toute façon je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est atrocement feignant, mais là vraiment, franchement le final, enfin il est raté, alors ça se finit sur le mariage des deux homosexuels. Au moins Modern Family aura eu la bonne idée de faire ça sur deux épisodes, pas sur une saison, coucou How I Met. D'ailleurs, je sais pas si je t'avais déjà dit, mais pour How I Met, je trouve le final plutôt bon.
Tu penses répéter à tous les podcasts?
Ouais, peut-être, ouais, je sais pas.
Ok.
Je vais voir. Non, mais c'est décevant parce que ça fonctionne pas. En fait, c'est vraiment à l'image de toute la saison. Ça prend pas de risques, c'est très télescopé tout ce qui arrive et tout. Enfin, on le voit venir à 10 km. Ça a perdu vraiment de la fraîcheur et je suis assez inquiet pour la série parce que, avec du recul, il n'y a pas non plus beaucoup de bons épisodes. Si tu veux, les épisodes sont moyens, quoi. Ça se regarde, mais. T'es pas là de dire ah putain c'était vraiment drôle ou ah c'était vraiment bien fait vivement le prochain quoi. Là c'est vraiment bah voilà tu regardes parce que t'as l'habitude mais c'est pas mauvais quoi, c'est assez bizarre à expliquer hein. T'es déçu en fait parce que t'as connu ça de meilleure qualité et là ça se contente du strict minimum et donc voilà. Bon on
Mais
va pas en parler plus.
j'ai lu une polémique, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, sur la série. En fait, donc les deux homosexuels donneraient apparemment dans la série très peu de signes d'affection entre eux, ce qui pousserait les gens à dire que en fait c'est une vision un peu biaisée de l'homosexualité, quoi.
C'est pas faux parce qu'en fait ils s'envoient souvent des piques et tout, t'as pas beaucoup effectivement de gestes d'affection, des câlins et tout, c'est vrai que c'est assez rare. Le coup fonctionne bien parce qu'ils se connaissent et ils savent un peu manipuler l'autre entre guillemets. C'est vrai qu'ils se font pas mal de coups de bluff et de ruse pour pouvoir arriver à leur fin personnellement. C'est vrai que c'est. Puis il y a un vrai problème, c'est au niveau de leur paternité. Ils ont adopté une petite fille et là je trouve que ça marche pas très bien ça. Il y a pas de réelle connexion avec l'enfant et. La petite fille est super drôle, mais en fait tu te dis qu'elle soit là ou pas là, pour leur couple ça change pas grand chose en fait. C'est un peu dommage.
Ok.
Coup de cœur, bon bah bien sûr il y a mixologie, mais je vais pas en parler parce qu'il y a un focus qui va sortir de ma part très prochainement.
Yeah!
Yes! Non, je vais parler de la fin de saison de Once Upon a Time. Ça aussi, j'avais parlé du début de saison qui était bon, et ben cette seconde partie de saison 3 a été vraiment de très bonne facture, à la surprise générale, je pense, parce que Je reviens vite fait, mais la première partie de la saison 3 avec Peter Pan, mais c'est une purge incroyable, où la série d'épisode en épisode s'enfonçait lamentablement et tu disais que bah, la série était morte. Et en fait, fin de l'arc Peter Pan et début de l'arc avec la sorcière du magicien d'Oz. Et là, franchement, ça a été bon tout le long, c'est incroyable. T'as l'impression qu'il y a eu deux scénaristes différents où c'est plus la même série. C'est. Incompréhensible et donc une franche réussite. Le final est peut-être un peu en dessous parce que ils ont tenté un espèce de voyage dans le temps avec l'héroïne, mais ça va un peu trop vite et t'as pas le temps vraiment de voir des choses. Tu te dis en fait ça aurait pu être plus long, mais si ça va être plus long, ça aurait peut-être été encore plus chiant. Enfin, c'est difficile à décrire. En fait, c'est peut-être une fausse bonne idée ce retour dans le temps et donc qui amène à la fin de la série donc un nouvel ennemi. Donc on pourrait critiquer parce que ça a l'air de surfer sur la Reine des Glaces de Walt Disney, mais ça peut être sympa. Mais vraiment, cet arc avec donc Zelina, c'est le nom de la sorcière du magicien d'Oz, est vraiment bon du début à la fin. Il y a très peu à acheter et franchement, pour une série comme Once Upon a Time, c'est incroyable. C'est vraiment une réussite. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est indescriptible.
Je suis épaté que vous y êtes tenu aussi longtemps, hein. Toi et puis Galax qui critique la série sur le site. Parce que putain, mais au bout de 10 épisodes, mais j'en pouvais plus, quoi. C'était nul, quoi. Apparemment, la saison 2 est assez catastrophique aussi, vraiment. Franchement, c'est proche de l'exploit ce que t'as fait là.
Bah en fait, pour être honnête, je regarde ça avec ma copine et elle aime bien, donc.
Ouais, ok. Ça explique beaucoup de choses, effectivement.
C'est ça. Mais
Ouais.
parfois j'abandonne des séries avec elle, hein. Genre j'ai abandonné The Vampire Diaries enfin. Mais là, je sais pas, Once Upon a Time a ce pouvoir de. T'as envie de revenir quand même un peu et En fait, tu sens qu'il y a le potentiel, tu sens qu'il est là, tu sens que tu peux avoir des trucs de ouf, des bons personnages, des bonnes histoires. J'adore les flashbacks dans cette série, je trouve que les contremaniers sont faits de façon assez intelligente. Bon après je sais ça vaut pas par exemple Fable en comics mais bon c'est pas non plus le même public visé je pense
Non, je pense
c'est
pas.
pas du tout la même optique mais moi je prends plaisir cette seconde partie de saison j'ai pris du plaisir quoi je crois que j'ai jamais connu dans ma vie de série film une saison où j'ai détesté le début et la fin j'ai adoré comme ça quoi. Non, bah si, Breaking Bad saison 4, vu que t'es en train de regarder,
j'allais le dire,
c'est un
j'allais le
peu
dire.
l'idée, ouais, mais non, là c'était vraiment atroce, hein, la première partie là avec Peter Pan, c'était abominable, j'étais vraiment pas loin de lâcher, je voulais voir le dénouement, on va dire, pour voir comment ça se finissait, puis c'est bien reparti. Dommage d'être aussi irrégulier, quoi.
Ouais, je crois qu'ils sont. En fait, je crois que ce serait une série qui serait très bien en 12 épisodes.
Oh,
Parce que je
mais
pense qu'ils ont vraiment de la matière pour 10 épisodes, mais pas pour 24.
comme énormément de séries, hein.
Comme
Pour moi,
énormément de séries, ouais.
le format 23 épisodes n'a plus lieu d'être depuis longtemps.
Ouais, ça ferait une bonne idée d'ailleurs, ça.
Clairement.
Ouais.
Mais bah, typiquement, une série comme Arrow, j'ai vu la saison 1, je l'ai fini il y a pas longtemps, bah, 13 épisodes, c'est largement suffisant et t'évites une dizaine d'épisodes de remplissage où il se passe pas grand-chose et c'est des vieux loners pas très intéressants, quoi.
Ouais. En fait, le Loners, c'est ce qui fait l'identité de la série, c'est ce qui fait qu'une série est une série. C'est-à-dire que tu peux regarder en gros dans le désordre, quoi. Mais sauf qu'il y a eu tellement de succès avec les séries à suivre sur le câble depuis une 10-15aine d'années que je pense que c'est un peu passé de mode. Les gens,
Bah,
ils ont envie de regarder des choses qui se regardent dans l'ordre et qui se regardent avec une intrigue fil rouge importante.
c'est assez marrant comme réflexion parce que tu y penses encore, ou même t'as qu'à regarder chez nous en France, qu'est-ce qui fonctionne? C'est les séries, bah, Les Experts, Mentalistes et tout, où si tu rates un épisode, c'est pas bien grave. C'est vrai qu'il y a encore 3-4 ans, même aux États-Unis, c'était ça, et effectivement, ça change. C'est très marrant, hein, parce que c'est comme quoi tout évolue, mais c'est assez révélateur. Je m'en souviens encore, il y a 3-4 ans, on parlait à des amis et dire, bah ouais, de toute façon, ce qui marche aux États-Unis, c'est ce qui est les loners et tout. On va dire que des séries comme Lost et tout, c'est un peu l'exception qui confirmait la règle, quoi. Quand tu regardais les audiences et tout, les trucs qui fonctionnaient, bah, c'est les épisodes indépendants où t'as pas besoin de suivre assidûment. Chaque semaine. Après, aussi, il faut prendre le contexte. De nos jours, t'as les replays et tout. Enfin, tu regardes des séries comme tu veux. Ça change aussi beaucoup de
Oui,
choses.
bien sûr. Mais on en revient à une discussion de début, hein. Moi, des deux vont ensemble. Est-ce que les upfront c'est encore d'actualité? Est-ce que les séries, comment dire, loners, cop show, medical show, c'est encore d'actualité? Pour moi, c'est de la vieille télévision qui reste encore là, parce que les plus gros succès de la télévision américaine, c'est quoi? C'est NCIS, Big Bang Theory et Les Experts. Donc, ils sont quand même
Ça.
trois séries que tu peux regarder dans le désordre, quoi.
C'est ça.
Mais je pense que les mentalités, les habitudes changent. Et je pense que quand le public, notre génération va arriver à l'âge vraiment où ça compte, 40, 30, 40 ans, vraiment, avec un pouvoir d'achat fort, je pense que les choses vont peut-être changer. Je me trompe
Puis
peut-être, hein, mais je pense que les choses vont changer.
de toute façon, mine de rien, les meilleures séries maintenant, qualitativement parlant, c'est quand même des séries qui font pas plus de 13 épisodes par saison.
Ouais, la preuve avec Sleepy Hollow, par exemple.
Oui, voilà, bah oui, bah ouais, c'est un très bon exemple, ouais, ouais, tout à fait. Non, mais même enfin, là, par exemple, je suis en train de réfléchir, une série encensée de partout et qui a 24 épisodes, j'en vois pas beaucoup, enfin,
Scandale.
ça
Scandale. La
fait.
saison, la, la saison 2 de Scandale qui est beaucoup aimée. Moi, j'ai vu que la saison 1, mais la saison 2 est beaucoup aimée. La saison 1 a que 10-12 épisodes. Mais la saison 2 a 24 épisodes et apparemment, même s'il y a des coups de mou, c'est pas mal, quoi.
Mais tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de Teen Wolf. Je crois que là, il y a une saison 3 de 20 et quelques épisodes. Ça a été moins bien, non?
Ben en fait, ça a été. Non, ça n'a pas été moins bien, c'est que ça a été triché, c'est divisé en deux. Il y a eu deux saisons, en fait. Il y a deux saisons
D'accord.
dans la saison 3. Et c'est deux saisons complètement différentes avec deux intrigues complètement différentes. Donc voilà. Et d'ailleurs, la saison 4 qui commence bientôt revient sur le format 12 épisodes.
Oui, bah
Donc
voilà, enfin, pour moi il n'y a pas de secret, hein. Enfin, ouais. Je pense que c'est l'avenir des séries, 13 épisodes, enfin 10-13 épisodes. Et bah, d'où ça vient ça? Bah, ça vient du câble. Encore une fois, merci le câble.
ouais, tout à fait vrai. Je pense qu'on peut conclure sur cette note et sur ce débat. Merci à toi, auditeur, d'avoir écouté cette semaine de Serial, puisque tu te trouves exactement à la fin de cette semaine de Serial. Merci à toi, Alan.
Merci à toi, Koss.
Et on vous dit à la prochaine fois. Allez, salut!
Tchuss!